Le silence des petits papiers, chapitre 46. Enfin connaisseur des vignobles des Côtes-du-Rhône, Jean-Christophe appréciait la cuvée Marot. Il la considérait comme un nectar du palais. Aussi décida-t-il, en accord avec Hélène, de faire une petite escapade dans cette région bénie des dieux. Bien entendu, il avait une petite idée derrière la tête. L'histoire de l'enveloppe avec ses petits papiers occupait ses jours et ses nuits. Il pensait joindre l'utile à l'agréable. Il n'oubliait pas la découverte macabre de Pedro Munoz à l'occasion du chapitre d'été de la confrérie. Il formulait le secret espoir de le rencontrer et d'obtenir quelque information de sa part. L'automne avait envahi le vignoble. Les vignes se préparaient à un repos bien gagné. Cette année, les vendanges laissaient augurer un grand millésime. Toutes les conditions étaient réunies. La pluie était venue au bon moment. Les dernières semaines ensoleillées avaient apporté le sucre indispensable à de grandes cuvées. Chacun se frottait les mains. La quantité et la qualité s'étaient donné rendez-vous, ce n'était pas si fréquent. Le couple musarda sur la route qui serpentait dans la campagne. Le feuillage des cèpes oscillait entre le jaune orangé et le rouge lit de vin. Chaque cépage prenait une couleur caractéristique. Cette promenade bucolique les ramenait des années auparavant. Ils se souvenaient de leur balade de jeunes mariés. Plus de 35 ans après leur escapade prenait une allure de retour aux sources. Les touristes partis, le village revivait son passé. Les autochtones reprenaient possession de leur pays. Les anciens jouaient aux boules sous les platanes qui commençaient à perdre leurs feuilles. Certains en profitaient pour user et abuser de leur mauvaise foi légendaire. Ils en profitaient pour justifier leur maladresse par quelques feuilles perturbant la trajectoire prévue. Ces galéjades faisaient partie intégrante des règles du jeu. Ce n'était pas écrit, c'était une tradition orale qui perdurait en ce 21e siècle. Avant de se rendre à la cave des Coteaux, ils firent leur petit tour de la cité médiévale. Ils empruntèrent les ruelles pavées montant au château. Enfin, il serait plus convenable de dire les ruines du château. C'est ici que reposait la cuvée emmurée à la mi-juillet. C'était surtout le lieu de la découverte insolite d'un cadavre dissimulé là pendant une année. Aucune nouvelle information concernant cette affaire n'était parue dans la presse. À croire que les caves du donjon garderaient leur secret pour l'éternité. Jean-Christophe n'avait aucune idée sur le lien réunissant ce fait divers tragique aux autres articles. Il se demandait quelle pouvait bien être l'identité du quidam. Ils entamèrent la descente en direction du village bas. Ils se dirent que ces pierres séculaires auraient beaucoup de choses à raconter si jamais elles avaient pu parler. La cave avait fait l'objet d'une rénovation. Un agrandissement serait le terme le plus approprié. Pour faire face dans de bonnes conditions au nombre croissant de visiteurs, le conseil d'administration avait diligenté des travaux. L'espace d'accueil était plus aéré. La lumière filtrant par les baies vitrées apportait un supplément de chaleur et de convivialité à l'endroit. Il n'était plus nécessaire de se mettre à proximité d'une lampe pour apprécier la robe d'une cuvée. Le coin dégustation offrait les conditions idéales aux dégustateurs. Une jeune stagiaire vint à leur rencontre. Elle leur proposa de goûter les productions locales. En discutant, ils apprirent que la jeune fille effectuait des études d'œnologie. Elle envisageait de se consacrer à ce métier. Jean-Christophe participait avec modération. Il savait ce qu'il voulait. Seule la cuvée Marot trouvait grâce à ses yeux. Son jugement était un peu abrupt, car d'autres cuvées méritaient, elles aussi, le détour. Dans l'espace d'exposition, un homme travaillait sur un ordinateur portable. Brun, l'œil noir et le cheveu bouclé, ils supposèrent qu'il s'agissait du dénommé Pedro. Jean-Christophe posa son verre et se dirigea vers lui. Ce dernier leva la tête et salua le nouveau venu. « Bonjour. Je suis grand amateur de vos produits et accessoirement écrivain. Si vous avez un peu de temps, j'aimerais m'entretenir avec vous. Bonjour, ce sera avec plaisir. J'ai une petite chose à terminer. Disons que dans 10 minutes, je peux être à votre disposition. En attendant, je vous propose de continuer la dégustation avec Élise. Entendu, monsieur. Pedro. On m'appelle Pedro. À tout de suite. Il rejoignit Hélène en pleine discussion avec l'apprenti œnologue. Son épouse avait un faible pour les cépages blancs. Heureusement qu'ils n'avaient pas prévu de reprendre la route. Leur taux d'alcoolémie montait dangereusement. Il faut dire que ces vins gorgés de soleil s'habillaient de velours. Comment ne pas succomber à de telles tentations? Pedro passa vers eux. Il précisa qu'il arrivait dans 2 minutes. En effet, c'est avec le sourire qu'il les invita à le rejoindre dans un coin tranquille de l'espace d'exposition. Des tableaux aux couleurs chatoyantes habillaient les murs en pierre apparente. Le contraste était saisissant. Jean-Christophe pensa que l'exposant devait être torturé pour poser sur une toile une telle explosion de teintes. Il n'arrivait pas à interpréter le désir de l'artiste. Il était hermétique à la pensée de l'auteur. Ils s'assirent tous trois sur des chaises en fer forgé. Jean-Christophe expliqua ce qu'il souhaitait exprimer à travers son roman se déroulant en partie dans le vieux village. Pedro s'intéressa au projet. Il lui demanda de lui parler de ses autres ouvrages. Hélène alla chercher des ouvrages à la voiture. Le courant passait bien entre les deux hommes. 3 verres et 1/2 heure plus tard, le tutoiement était devenu la règle. Il restait à aborder le secret des caves du château. Pedro confessa qu'il avait vécu quelques semaines difficiles à cause de sa découverte lors de la cérémonie de libération de la cuvée Marot. Il raconta, avec beaucoup d'émotion dans la voix, sa trouvaille macabre. Il lui arrivait de se réveiller en pleine nuit, en proie à des visions cauchemardesques. Il se trouvait avec son infortuné compagnon emmuré. Sa seule possibilité pour survivre était de boire les magnums alignés en cohorte. Il se réveillait immanquablement au moment où ses os se transformaient en cèpe de vigne. Il suivait un traitement et rencontrait un psy plusieurs séances par mois. Jean-Christophe se hasarda à poser une question. Connaît-on l'identité de la victime, Pedro?
Toujours pas. Je suis ça de très loin, mais les gendarmes m'en parlent quelquefois.
Aucun indice n'a permis d'avancer une hypothèse?
Non.
Enfin si, il y a un élément qui me semble lié. L'adjudant m'a confié un soupçon. Il pense qu'il pourrait s'agir d'un ressortissant italien.
Qu'est-ce qui permet une telle supposition?
Oh, un détail passé inaperçu 1 an plus tôt, lors de l'emmurage précédent. Une voiture immatriculée dans la région de Naples a été abandonnée chez nous. Elle n'a jamais été réclamée. Bien entendu, il s'agissait d'un véhicule volé, mais ça paraît gros que son propriétaire n'ait jamais cherché à la récupérer. C'est louche tout ça. Effectivement, votre ami vous a-t-il lâché le nom du possesseur de cette automobile?
Oui, mais je n'y ai pas prêté cas. Je crois qu'il se nommait Sigliotti ou un nom comme ça.
Jean-Christophe n'en espérait pas tant. Il était venu en touriste et repartait avec une piste intéressante. Pedro lui confia qu'il avait décidé de quitter la région. Il voulait tenter une autre vie loin de tout ça. Ils échangèrent leurs coordonnées. Les deux hommes convinrent de correspondre par email interposé.